Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La campagne d'affichage n'est pas passée inaperçue en Allemagne. Pendant près de deux mois, le ministère de l'Intérieur a en effet tenté de convaincre les migrants de rentrer dans leur pays en échange d'une prime. Ces panneaux d'incitation au retour, destinés à tous ceux qui n'ont pas obtenu l'asile, ont fait scandale et déclenché une vague de pétitions citoyennes. Le message jugé non seulement humiliant, mais aussi contre-productif dans un pays qui a vraiment besoin de main-d'œuvre étrangère. Reportage à Berlin, signé Julien Méchaussy.
Ton pays, ton avenir, maintenant. À la première lecture, ce slogan pourrait faire penser à une campagne d'accueil pour les migrants. Apparue au mois de novembre dernier dans tout le pays, cette affiche incite pourtant bien les personnes déboutées du droit d'asile à un retour volontaire. À côté du slogan, des drapeaux de la Turquie, de la Russie, d'Inde ou encore de l'Afghanistan et cette phrase « Jusqu'au 31 décembre 2018, profitez jusqu'à 12 mois de défraiement pour un logement dans votre pays d'origine, soit 1000 euros pour inciter au retour ». Choqué par cette campagne aux accents publicitaires derrière laquelle se cache le ministère de l'Intérieur, Julia Hübner, simple citoyenne, se mobilise avec des amis et rédige une pétition pour le retrait des affiches. Une pétition mise en ligne qui va recueillir plus de 30 000 signatures.
Cette campagne, dans sa conception, rappelle plus une publicité pour un grand magasin de produits électroniques. Elle dit aux gens, dépêchez-vous de profiter de la prime avant la fin de l'année, tout comme les campagnes de prime à la casse pour acheter une nouvelle voiture. Mais cette campagne s'adresse à des gens qui ont été contraints de fuir leur pays, pas à des consommateurs, c'est tout simplement humiliant.
Pour contrer le succès de la pétition, des responsables du ministère de l'Intérieur ont invité ses initiateurs pour s'expliquer et se justifier. Mais pour eux, cette campagne est une réussite et Julia Hübner a une idée sur le véritable objectif de cette campagne.
L'année 2019 sera marquée par de nombreuses élections très importantes. Les élections européennes, bien sûr, mais aussi des élections régionales cruciales pour le gouvernement. Et nous pensons que ces affiches ne constituent que le début d'une campagne à destination des électeurs de l'AFD, le parti d'extrême droite. Le message lancé par le ministère de l'Intérieur est clair. Nous sommes pour les expulsions et nous souhaitons faire baisser par tous les moyens le nombre de réfugiés dans le pays.
Rien de très surprenant alors que le ministère de l'Intérieur est dirigé par Horst Seehofer, président des conservateurs bavarois, situé très à droite sur l'échiquier politique. Il y a quelques mois, ce dernier affirmait que l'immigration était la mère de tous les problèmes de la société allemande. Car malgré le grand nombre de réfugiés entrés dans le pays depuis l'été 2015, seuls 60 000 migrants sont éligibles à cette aide au retour, ceux dont la demande d'asile a définitivement été rejeté. Et cette campagne a également choqué l'ensemble des étrangers du pays. Co-fondateur de la jeune entreprise OneAim, présente dans le secteur des hautes technologies, Yann Le Rataille fait la visite. Ambiance décontractée, une cinquantaine d'employés qui représentent près de 25 nationalités. La métaphore parfaite de l'image que souhaite renvoyer la ville de Berlin, jeune, dynamique, cosmopolite et paradis des start-up. Cette campagne a également choqué ici et a fait souffler un vent d'inquiétude parmi les collaborateurs étrangers de Yann Le Rataille, et cela dès le premier jour de son lancement à l'automne dernier.
Et ouais, ce jour-là, il y a, je crois, 3 ou 4 employés qui m'ont eu des messages privés sur Facebook, WhatsApp, et qui m'ont surtout posé des questions sur l'affiche parce qu'ils n'ont pas compris. Ils avaient l'impression que ça parlait à eux parce qu'ils ont bien vu bon, quelque chose les étrangers, retourner à la maison. Ils n'ont pas vraiment compris, donc ils ont surtout posé des questions.
Si Yann Le Rataille a pu rapidement rassurer ses collaborateurs, cette réaction montre bien la conception maladroite de l'affiche, avec une image de l'Allemagne écornée, tout comme son économie, qui souffre déjà d'un manque de travailleurs qualifiés.
Je crois qu'ils n'ont pas réalisé le mal qu'une campagne comme Returning from Germany crée long terme, parce que les gens qui ont vu ça, bien sûr, vont se rappeler, et le signal que ça envoie à ces salariés qui sont aussi très très bien payés et qui sont essentiels aussi pour l'économie à Berlin. Peut-être un jour ils iront dans une autre ville, un autre pays. Et même moi comme franco-allemand, comme enfant européen, qui n'ont vraiment rien du tout à faire avec ça. Moi, j'avais l'impression que ça parlait même à moi quand je l'ai vu la première fois.
Yann Le Rataille a rédigé une lettre ouverte au ministère de l'Intérieur pour éviter à l'avenir ce type de campagne. Et plus de 90 entreprises des nouvelles technologies se sont jointes à son appel.
Et d'appartenance et de nationalité dans le contexte du Brexit, il est beaucoup question en ce moment en Autriche. Au cœur du débat, ces 25 000 Autrichiens qui vivent au Royaume-Uni, auront-ils le droit de conserver leur passeport autrichien s'ils demandent la naturalisation britannique ? À Vienne, Céline Béal.
Peut-on être citoyen autrichien et adopter une seconde nationalité ? Voilà la question qui se pose aujourd'hui à la veille du Brexit. La ministre des Affaires étrangères souhaite leur accorder ce privilège. Mais attention, il s'agit d'une exception. Car l'Autriche est l'un des rares pays en Europe qui interdisent la double nationalité. Récemment, le gouvernement de la droite avec l'extrême droite a même fait procéder à grand fracas à une trentaine de déchéances concernant des Autrichiens qui n'avaient pas renoncé à leur passeport turc. La Turquie n'est pas le Royaume-Uni. Et dans ce cas, la ministre a bien précisé que la législation s'appliquerait, la double nationalité reste interdite aux Turcs. Tout le monde n'est décidément pas tout à fait égal devant la loi autrichienne. Car outre les citoyens autrichiens coincés au Royaume-Uni en plein Brexit, deux autres catégories de citoyens vont bénéficier du privilège du double passeport. D'abord, les survivants de la Shoah et leurs descendants, envers lesquels la République autrichienne a une responsabilité historique. Et puis, les Italiens de la région du Haut-Adige. Cette région germanophone a été perdue par l'Autriche au profit de l'Italie au sortir de la Première Guerre mondiale. 330 000 personnes sont concernées, au grand dam du gouvernement italien, qui n'apprécie guère cette faveur. Un vrai casse-tête national, ponctué d'exceptions. Et à quoi doivent s'attendre les 10 700 grands Bretons installés en Autriche ? À des difficultés, le ministère de l'Intérieur a indiqué que pour eux, aucune exception n'était prévue.
Et pour notre chronique avec Courrier International, on retrouve Sacha Mitchell. Bonjour Sacha.
Bonjour Frédéric.
Dans le magazine de cette semaine, vous revenez sur le Brexit qui devrait donc avoir lieu dans moins de 3 mois. Le conditionnel est de mise. Vous revenez sur un événement déterminant qui aura lieu à Londres le 15 janvier prochain.
Absolument. Dans quelques jours, le Parlement se prononcera sur l'accord de divorce conclu entre les négociateurs britanniques et européens. Reporté au dernier moment mi-décembre, ce vote crucial aura finalement lieu mardi prochain. Sauf qu'un mois plus tard, eh bien, pas grand-chose, sinon rien n'a changé. Theresa May n'a pas obtenu les concessions qu'elle espérait à Bruxelles et une majorité écrasante des députés sont toujours opposés à ce texte. C'est le cas d'un grand nombre de députés conservateurs, le parti majoritaire de la Première ministre Theresa May et aussi du DUP. Le DUP, Parti Unioniste Démocrate, c'est un petit parti nord-irlandais protestant et pro-union avec la Grande-Bretagne. C'est aussi, depuis 2017, l'allié vital de Theresa May au Parlement. Ce qui provoque leur colère à ses députés, c'est le backstop, ce filet de sécurité qui vise à éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Sans entrer dans les détails trop compliqués, le mécanisme prévoit de créer un traitement de l'Irlande du Nord qui serait différent du reste du Royaume-Uni. Absolument inconcevable pour eux. Pour mieux comprendre cette fermeté, l'hebdomadaire britannique New Statesman est remonté aux racines, au passé de la dirigeante du parti Arlene Foster. Âgée de 48 ans, elle est avocate de formation, mais elle est aussi une enfant des troubles, le conflit nord-irlandais qui a fait plus de 3500 morts entre 1968 et 1998 en Irlande du Nord. Un épisode qu'elle a vécu jusque dans sa chair à 8 ans. En effet, son père reçoit une balle dans la tête, un tir d'un militant nationaliste en faveur de la réunification de l'île. Elle habite alors à quelques encablures de cette fameuse frontière. Quelques années plus tard, une bombe explose dans le bus qui l'emmène à l'école. Alors en fait, la défense d'une Irlande du Nord rattachée à la Grande-Bretagne fait partie de son histoire et de celle de son parti. Sauf que l'intransigeance du DUP pourrait avoir un effet pervers selon le New Statesman. Si l'opposition à l'accord mène à une sortie brutale de l'UE, alors la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni pourrait tout simplement être remise en cause et menée, c'est encore le New Statesman qui le dit, à son pire cauchemar, à terme la réunification de l'Irlande.
Et en pleine crise des gilets jaunes en France, vous êtes plutôt mordant à Courrier International. Vous avez choisi un article d'Il Venerdì di Repubblica en Italie qui nous emmène dans un petit pays, si on peut dire, dernière victime en date de l'austérité.
Tout à fait, ni Grèce, ni Venezuela, ni Argentine, comme le dit Il Venerdì, mais un petit territoire enclavé en Italie. Et au sud-est de Bologne, il s'agit du rocher de Saint-Marin, état le plus riche du monde. En 2007, ancien paradis fiscal, Saint-Marin est en pleine tempête, nous explique cet hebdomadaire italien. Peu à peu, les amnisties fiscales prononcées par Rome ont fait disparaître l'argent des évadés italiens de cette caverne d'Ali Baba. Résultat, sur les 14 milliards d'euros conservés il y a encore 10 ans dans les coffres-forts des banques, il n'en reste aujourd'hui plus que 5 milliards. Pour enflouer ne serait-ce que la Cassa di Risparmio, plus grande banque locale qui peine à se remettre d'un scandale de blanchiment d'argent, il faudrait 500 millions d'euros, une somme absolument impossible à réunir. Du coup, le pouvoir local caresse l'idée d'appeler à l'aide le Fonds monétaire international. Alors il y a bien du gras à couper dans la bureaucratie de ce petit état de 33 000 habitants, soutien à un commerçant du centre historique, mais faire accepter ne serait-ce qu'une dose homéopathique d'austérité, comme l'exigerait le FMI, n'est pas chose aisée. Si par malheur une nouvelle crise bancaire pointait le bout de son nez, Saint-Marin pourrait envoyer un ultime SOS, comme il l'a déjà fait par le passé, à son grand voisin, l'Italie.
Et on terminera avec la une de Courrier International consacrée à Michel Houellebecq et son dernier roman Sérotonine.
Oui, son dernier ouvrage est en rupture de stock dans de nombreuses librairies françaises déjà, mais Michel Houellebecq ne fascine pas seulement ses compatriotes. À l'étranger aussi, il suscite admiration et répulsion. Idéologue beauf pour les uns, il est aussi considéré comme un génie par les autres. Et d'ailleurs, génie, c'est ce que pense de Groene Amsterdammer aux Pays-Bas. Pour cet hebdomadaire, pas de doute, Michel Houellebecq doit recevoir le prix Nobel de littérature, tout simplement. Certes, ses ouvrages ne sont pas pétris d'un puissant idéal, comme l'exigent les critères officiels, mais après tout, Elfriede Jelinek, romancière autrichienne, a bien reçu le prix en 2004, alors que son œuvre est empreinte de haine et de chaos. Au fond, ce que le comité doit avant tout recompenser, selon de Groene, c'est le fait que chaque fois, Michel Houellebecq s'avère être un critique de la civilisation véritablement visionnaire. En fait, poursuit le magazine d'Amsterdam, on devrait pouvoir lire son œuvre comme des explorations dystopiques empreintes d'un idéalisme certain, ce qui en fait résolument un digne prétendant au Nobel.
Tous ces sujets sont bien sûr à retrouver dans Courrier International, version papier et en ligne. À très bientôt.
À bientôt.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Et Brexit encore et toujours, mais en musique avec vous Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Frédéric.
La perspective d'une sortie de l'Union Européenne déprime plus d'un Britannique, y compris des musiciens de talent qui ont décidé de mettre leur blues dans un album.
Et oui, c'est le cas du groupe The Good, The Bad and The Queen qui a publié voilà quelques semaines son deuxième album, Maryland, un disque envisagé comme une lettre d'adieu, la bande-son du Brexit en quelque sorte, déclinée en une dizaine de chansons à la mélancolie brumeuse, magnifiquement produite par Tony Visconti, qui fut un collaborateur historique de David Bowie. Il faut dire que derrière The Good, The Bad and The Queen se cache un casting 4 étoiles avec Damon Albarn, le chanteur des groupes Blur et Gorillaz, Paul Simonon, ancien bassiste des Clash, le guitariste Simon Tong et le batteur nigérian Tony Allen, pionnier de l'afrobeat, un super groupe en somme, mais bien désenchanté, le moral en berne.
De l'album Maryland du groupe The Good, The Bad and The Queen.
Мне всегда хотелось рисовать. Вот это. Сколько я себя помню, работал так называемым десятником, руководил грузчиками, значит. Ну, в общем, вот такая вот неприятная довольно работа.
Et on termine sur une figure iconoclaste de l'art russe. Oscar Rabin, décédé à l'âge de 90 ans en Italie en novembre dernier, reçoit un bel hommage au musée d'art multimédia de Moscou. Une vraie figure qui a su toujours se démarquer, Étienne Bouch.
Oscar Rabin a la trajectoire d'un artiste condamné à la marginalité. Dès son apprentissage, il est renvoyé du célèbre institut Sourikov de Moscou pour formalisme. Rabin veut peindre ce qu'il voit autour de lui. Ses peintures et collages décrivent la vie de son époque en URSS, les baraquements des années 50, puis l'apparition des immeubles de l'ère Khrouchtchev. Son œuvre est aussi imprégnée de ses tourments intérieurs. Elle raconte une existence soviétique régie par la bureaucratie et obsédée par les documents officiels. On peut y deviner la propre histoire de Rabin, celle d'un adolescent devenu orphelin à l'âge de 13 ans lorsque sa mère disparaît en 1941. Durant le dégel khrouchtchevien, Oscar Rabin vit à Lianozovo, dans la banlieue de Moscou. Sa baraque est un repère de la vie intellectuelle non officielle, un haut lieu de la culture underground où se mêlent artistes et poètes. Elle devient un lieu d'exposition pour des artistes confinés dans la clandestinité. Mais rapidement, Oscar Rabin s'attire l'hostilité du pouvoir. Dès 1960, date de la première campagne de dénigrement diffusée dans la presse. La noirceur de ces paysages urbains n'est pas dans la ligne et la Pravda n'est qu'un support sur lequel on pose du poisson ou du saucisson. En 1974, il est l'un des organisateurs de la célèbre exposition dite « bulldozer ». Les autorités envoient des bulldozers saccager des œuvres exposées sur un terrain vague sans autorisation. L'affaire a un retentissement international. Quelques années plus tard, Rabin est de nouveau attaqué, accusé de parasitisme social. En 1978, privé de la citoyenneté soviétique, il se retrouve en exil contraint en France où il vivra pendant 50 ans. Comme d'autres artistes non conformistes de sa génération, il est désormais exposé dans les plus grandes institutions de la capitale.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI.